La radio Ebenezer International vous présente Pastopod. À l'écoute, bonjour. Depuis sa naissance, le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus a toujours placé dans son Église des hommes ordinaires, parfois d'origine bien modeste, et les a équipés afin d'accomplir des choses extraordinaires. En dépit de tout ce qu'on peut penser de cette Église, aujourd'hui encore, ses serviteurs de Dieu existent. Certains travaillent dans le plus grand anonymat, tandis que d'autres sont d'une renommée internationale. Néanmoins, ils ont tous le même objectif, orienter les âmes perdues vers la glorieuse lumière de l'Évangile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'heureux plaisir de vous présenter dans cette édition de Pastopod le révérend Jean Dutaine Joseph, ancien président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Nous avons profité de son passage en France pour vous permettre d'écouter son témoignage. Avant de vous faire découvrir son histoire, son parcours avec le Seigneur, nous vous proposons ce chant que nous avons choisi pour votre plus grand plaisir. C'est bien le trio Fidal, chant intitulé « Le Rocher ». Quant à moi, je vous rejoins juste après ce chant pour la suite de l'émission avec le pasteur Jean Dutaine Joseph.
Soutien comme un rocher. J'ai besoin d'un abri hors du
Merci au trio Rofidal pour ce si beau chant « Jésus est le roc sur qui je peux m'appuyer quand la terre n'est que sable mouvant ». C'est maintenant le moment d'accueillir notre invité, le pasteur Jean Dutaine Joseph. Nous l'avons à l'autre bout du fil. Nous avons l'assurance que le Seigneur va utiliser son témoignage pour notre édification spirituelle. Pasteur Jean Dutaine Joseph, je te dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette édition de Pastopod. Je te cède le micro pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs qui ont sans doute hâte de savoir qui est cet homme de Dieu, ce serviteur du Seigneur.
Et bonsoir mon frère, je suis heureux de pouvoir me faire entendre sur les ondes de cette station de radiodiffusion chrétienne. Et je suis ici à Paris pour une série de conférences et ça a été une expérience tout à fait enrichissante.
Donc oui, ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça s'est sous les auspices de la RAF. Qui est une association de ressortissants haïtiens et qui a quand même une mission double, c'est religieuse et culturelle aussi, si vous voulez. Donc ça a été vraiment bien.
Pasteur Jean Dutaine Joseph, aurais-tu l'amabilité de te présenter à nos auditeurs?
Eh bien, je suis Jean Dutaine Joseph. Je suis d'origine haïtienne. Je suis né dans une famille chrétienne, mais c'est à l'âge de 15-16 ans que j'ai eu le bonheur de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur mon chemin. J'ai grandi au sein de l'Église, mais c'était comme un petit protestant, pas nécessairement comme un petit chrétien. Donc, quand j'ai découvert qu'il fallait accepter Christ personnellement comme mon sauveur, je l'ai fait. Et tout jeune encore, j'ai reçu le baptême d'eau dans notre église à Saint-Marc. Et en fait, c'est à partir de cette expérience que j'ai commencé à m'intéresser dans les choses spirituelles.
Après ta conversion, tu t'es dirigé directement vers une école biblique ou bien ton parcours professionnel? Parle-nous un peu de ta formation ou bien tes formations.
Oui, alors à mesure que je grandissais, j'avais l'ambition, la bonne ambition de devenir un prédicateur de l'Évangile. Il y avait à l'église des jeunes qui ont été à l'école évangélique de la Bible à Beau-Prince, et lorsqu'ils prêchaient, enseignaient et conduisaient des cours d'été pour les jeunes et les enfants, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et mon rêve, c'était de devenir un serviteur de Dieu, à l'instar de ces autres jeunes qui étaient un petit peu plus avancés en âge que moi. Et ainsi, je suis arrivé, je suis parvenu à avoir été admis à l'école évangélique de la Bible à Port-au-Prince, où j'ai passé 4 ans à l'étude de la parole de Dieu. Et en 1957, j'ai reçu mon diplôme en théologie et depuis, je suis dans le ministère.
Moi, je pensais que tu étais l'un des fondateurs de cette école biblique, pourtant tu as été aussi étudiant là-dedans.
Ah oui, alors justement, il y a eu l'école évangélique de la Bible, c'est mon alma mater, et après avoir été étudiant à cette école, et je suis parti en mission. J'ai été en province pour 3 ans et 3 mois, j'ai travaillé comme prédicateur de l'Évangile dans la vallée de l'Artibonite. Et après cette période de temps, le Seigneur m'a appelé, je suis rentré à Port-au-Prince pour devenir censeur au collège évangélique Maranatha. Et c'est pendant que je suis là que je me suis marié en 1961 avec la jolie demoiselle Maxia Girard, qui est de profession infirmière et qui est devenue plus tard technicienne en laboratoire après notre mariage. Mm-hmm. Et pendant que je travaillais à Maranatha et que j'enseignais à l'école évangélique de la Bible et prêchais à l'église baptiste de Bolos, j'ai senti qu'il fallait voyager pour des études un petit peu plus avancées.
Amen.
Et c'est ainsi qu'en 1965, le Seigneur m'a ouvert une porte. Je suis allé à Philadelphie et je me suis fait inscrire à l'université biblique de Philadelphie. Mm-hmm. Et d'où je suis sorti licencié en sciences. Mm-hmm. Et puis je suis rentré en Haïti, je suis devenu directeur de l'école évangélique de la Bible, mon alma mater. Mm-hmm. Alors il faut dire que durant mon séjour à Philadelphie, ma femme est venue me rejoindre, nos deux garçons Jean-Jean et Carly, ils sont venus et ils ont été à l'école à Philadelphie. Et en 1970, nous sommes retournés à Port-au-Prince pour assumer nos responsabilités à l'école évangélique de la Bible et dans d'autres églises dans la zone du cul-de-sac.
Pasteur, il y a une école biblique très connue en Haïti dont tu faisais partie de l'équipe dirigeante. C'est l'école biblique de Bolos, au sommet de cette montagne-là. Est-ce que tu peux nous donner brièvement un aperçu de cette école biblique? Comment ça fonctionne? Quelles sont les différentes disciplines que vous enseignez qu'on enseigne dans cette école biblique-là?
Bien oui, voilà, cette école, c'est une école fondée au début des années 40. Mais ça a fonctionné comme un institut biblique offrant un programme de diplôme en théologie. Mm-hmm. Et en fait, c'est l'une des plus anciennes et les mieux structurées aussi. Cette même école a continué jusqu'en 1997. Mm-hmm. Et en 1997, nous avons fait une fusion, parce qu'il faut dire que dans le temps, je suis retourné aux États-Unis pour d'autres études avancées, maîtrise, etc. Mm-hmm. Et en 1981, j'ai fondé, avec le concours d'autres missionnaires et pasteurs haïtiens et professeurs, j'ai fondé le STEP. Le mm-hmm. STEP, c'est séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Mm-hmm. Alors c'était comme, je dirais, le résultat de la thèse que j'avais préparée pour ma maîtrise au séminaire de Dallas, mm-hmm. au Texas, parce que la thèse avait, la mémoire bien sûr, avait pour titre « L'éducation théologique en Haïti, mm-hmm. et problèmes et tentatives de solutions mm-hmm. ». Donc la naissance du STEP, c'était comme le résultat, n'est-ce pas, de ma thèse. C'était mm-hmm. la réponse aux problèmes qui se posaient à l'époque. Mm-hmm. Et c'est celui d'avoir une institution supérieure, comprenez, pour la préparation des pasteurs, des ouvriers du Seigneur.
Amen.
Donc alors, à partir de 1997, nous avons fait une fusion entre les deux, entre mm-hmm. l'école évangélique de la Bible et le séminaire. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, nous avons une institution qui offre deux diplômes, un diplôme en théologie et une licence en théologie. Mm-hmm. Alors les matières comprennent les cours fondamentaux de Bible, de doctrine, de théologie, et un cours d'anglais pour permettre aux étudiants de faire des recherches, un cours de droit usuel pour les préparer à mieux prendre place dans la société haïtienne, etc. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'est un programme au complet, un programme reconnu et respecté, pas seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger, parce que nos étudiants, quand ils quittent le pays, que ce soit ici à Vaux-sur-Seine ou aux États-Unis d'Amérique, dans des centres de formation supérieure, mm-hmm. ils sont reçus pour leur programme de maîtrise.
Si je comprends bien, vous avez une certaine relation avec la faculté de Vaux-sur-Seine.
Oui, oui, la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Mm-hmm. Oui, oui, nous avons de nos étudiants qui, après avoir bouclé le programme de licence en Haïti, viennent ici et pour faire leur maîtrise en théologie. Et ça a marché avec succès. En fait, nous en avons deux actuellement qui travaillent, qui militent ici. L'un est affecté avec l'église française, l'église blanche, et l'autre travaille en collaboration avec l'un des pasteurs haïtiens et de la région parisienne.
Merci bien, pasteur, pour toutes ces explications. Pasteur Jean Duthaine Joseph, tu as servi l'église haïtienne pendant beaucoup d'années dans bien des domaines. Que représentent pour toi ces années d'expérience au service du Seigneur, au service de l'église de Dieu?
Bien, ces années d'expérience ont été pour moi de grandes bénédictions. Et j'ai toujours considéré le ministère comme un privilège. Un privilège parce que je me suis toujours dit que Dieu aurait pu faire son travail et accomplir son œuvre sans moi. Et bien sûr, je ne suis pas le mieux qualifié, le mieux préparé et de ma génération. Et cependant, le Seigneur m'a fait grâce, il s'est servi de moi pour développer des églises locales et surtout le privilège de travailler à la formation des ouvriers pour le ministère, ça a été une expérience tout à fait enrichissante et une expérience irremplaçable, quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre à ma connaissance qui puisse remplacer ce genre de travail dans le pays et au sein de la communauté évangélique d'Haïti.
Pasteur, nous allons prendre une première pause en écoutant un titre de l'un des albums que ton fils a fait sortir en Haïti avec le groupe, son groupe Alabanza, c'est ça?
Oui, Alabanza. Alabanza a été fondé par Carl-Henri Joseph, notre fils, après ses études, et à l'Institut biblique de Bondy à Chicago, ensuite et au collège, qui est vraiment une université chrétienne à Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Donc, à son retour, il a passé quelque temps à travailler dans le cadre de Radio Lumière. Et puis, pendant ces années-là, donc, il a senti qu'il fallait se jeter dans la musique. Et c'est lui qui a fondé Alabanza. Et à la Manta Production.
Tout à l'heure, tu vas nous parler plus largement du ministère de ton fils, Carly, qui laisse une empreinte indélébile, je dirais, dans la musique évangélique haïtienne. Mais juste avant, avec ton aimable autorisation, je vais me permettre de faire écouter un premier titre de ces albums.
Carly Joseph, The Only One, Anytime, Digital. Bonne écoute.
I feel all alone in this confusion. This mess I've made, but you see beyond my limitations. I know that you can take this doubt away. Holy One, let me feel your power. Let me know you're right here by my side. Holy One, each and every hour I'm counting on your love. I've done enough to make you suffer. Still do things that make you cry. But what I desire is bringing glory to the one who turned my losses into gain.
Mise à l'écoute, je vous rappelle que vous êtes sur votre station, votre radio, Ebenezer International, la station qui s'intéresse à votre édification spirituelle, à l'heure de l'émission Pastopod, et que notre invité aujourd'hui, c'est un pasteur haïtien, c'est le deuxième pasteur haïtien qui participe à nos programmes, c'est bien le révérend Jean Duthaine Joseph d'Haïti, qui vit actuellement aux États-Unis. Pasteur Jean Duthaine Joseph, ta carrière pastorale reste aux yeux de l'Église évangélique haïtienne un exemple flagrant de réussite. Quel a été ton secret, si tu me permets d'utiliser cette expression, le secret de ta réussite?
Eh bien, je pense que le secret, c'est simplement une dépendance, une dépendance totale de Dieu.
Amen.
Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée que celui qui aspire et à l'œuvre pastorale, celui qui aspire au ministère, désire une œuvre excellente. Alors, moi, j'ai toujours considéré le ministère comme un privilège. Et en tant que tel, l'on ne peut pas s'y engager de ses propres forces. Et prétendre faire le travail en se basant sur ses expériences, sa formation académique, etc. Donc je pense que le travail est le travail divin. L'Église est au Seigneur. Donc quelqu'un qui veut réussir dans le ministère, il faut qu'il dépende entièrement de Dieu et du Saint-Esprit. Et quand c'est Dieu qui dirige, eh bien là, on peut attendre, n'est-ce pas, que ça va marcher.
Donc la clé de ta réussite, le secret de cette réussite, c'est cette soumission, cette dépendance totale à la volonté de Dieu.
C'est correct, bien sûr.
Merci, pasteur. Et quel est, à ton avis, le plus grand investissement que tu as fait dans l'œuvre du Seigneur? Tu en as fait pas mal, mais à ton avis, selon ton estimation, quel est l'investissement le plus important que tu as fait dans l'Église de Jésus-Christ?
Oui, à mon estimation, le plus grand investissement que j'ai eu le bonheur de faire dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la formation, la formation des ouvriers pour le ministère. Je me suis investi dans l'homme, et ces hommes qui sont venus à l'école et qui sont assoiffés de connaissances, qui ont eu une vision du ministère et qui veulent se former afin de mieux servir leur Dieu. Donc je pense que le fait d'avoir eu l'occasion de passer des années à travailler et à former ces différentes générations, c'est une expérience merveilleuse. Et c'est encourageant aussi parce que dans mes parcours, dans mes voyages, j'arrive aux États-Unis d'Amérique, au Canada, ici en France, et je rencontre d'anciens élèves qui sont reconnaissant envers l'institution et envers le corps professoral, ça me donne beaucoup de force morale. Et j'allais même dire, avec une certaine fierté, vous comprenez, que je constate que les moments que nous avons passés ensemble et les heures de recherche, de travail, etc., n'étaient pas en vain. Donc je pense que le plus grand investissement, c'est celui que nous avons fait dans des hommes et des femmes qui aujourd'hui servent le Seigneur dans plusieurs pays et dans plusieurs différentes capacités.
Pasteur Jean Duthaine Joseph, tu faisais aussi partie de l'UEBH, c'est ça? L'Union des Églises Baptistes d'Haïti?
Oui, oui, l'UEBH, c'est l'Union Évangélique Baptiste d'Haïti. J'ai fait partie de cette organisation. En fait, j'ai grandi au sein de cette organisation. Et de 1988 à 1994, c'est moi qui ai assuré la présidence de la mission. Donc, alors que j'étais doyen du séminaire titulaire de l'Église Baptiste de Bolos, j'assurais aussi la présidence de la mission.
Comment définis-tu cette mission-là, UEBH?
C'est l'Union évangélique baptiste d'Haïti, une institution nationale, oui, tout à fait nationale, évangélique, qui regroupe actuellement environ 136 églises locales, dont la plupart, quelques-unes, se trouvent en République dominicaine.
D'accord.
La majorité, ce sont des églises haïtiennes qui sont dans le pays, et surtout dans le département de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord-Ouest.
Pasteur Jean-Duc.
Nous avons aussi des institutions telles le STEP, l'École évangélique de la Bible, le STEP, le Collège évangélique Maranatha, il y a le centre médical, le centre médical Biraka qui fonctionne à la pointe des Palmistes dans le Nord-Ouest. Il y a la presse évangélique.
La presse évangélique.
La presse évangélique. Donc, toutes ces institutions appartiennent à l'UEBH.
La presse évangélique, petite parenthèse, c'est vraiment est-ce que c'est pas une association, une entité de cette mission qui fait un travail énorme en Haïti?
Oui, il faut le dire, bien sûr. Dieu en soit béni.
Amen. Au niveau de la musique, publication d'albums d'artistes chrétiens, d'ouvrages évangéliques.
Oui.
La presse évangélique reste une référence dans ce domaine.
Oui, en effet. C'est ça, c'est bien.
Pasteur Jean-Duten Joseph, du point de vue théologique, est-ce que tu as constaté quelques progrès au niveau de nos églises haïtiennes? Si tu compares, par exemple, si tu prends une période de 20 ans ou 30 ans depuis que tu milites dans ce domaine, est-ce que tu as constaté un certain progrès?
Oh, bien sûr. L'un des témoignages tout à fait éloquents que je peux partager avec vous et avec toi et les auditeurs, etc., c'est que dans le passé, l'haïtien cultivé se mettait à l'esprit que les protestants, c'était des gens à tête marée. C'était des gens, tête marée, c'était des gens. Et pour eux, quelqu'un qui était formé, qui avait une belle éducation, qui était bien instruit, et ne pouvait pas se faire protestant. Cependant, depuis plus d'une vingtaine d'années, les choses ont beaucoup changé parce que les gens que nous recrutons au niveau du STEP, ce sont pour la plupart des universitaires.
Amen.
Des gens qui ont fait leur philosophie, qui ont fait l'université, et nous avons formé des avocats, des gens qui étaient déjà des avocats et qui militaient. Nous avons formé des administrateurs, des normaliens supérieurs, voire des médecins, etc. Donc actuellement, nos églises sont desservies par des hommes qui sont préparés et qui pourraient servir dans n'importe quelle administration dans le pays. Donc c'est un progrès tout à fait évident.
Amen, c'est merveilleux. Oui.
Donc alors ça donne vraiment comment dirais-je, ça fait avancer. Ça fait avancer la théologie dans le pays, parce que nous avons de jeunes théologiens. Il y en a qui sont maîtres, d'autres qui sont docteurs en théologie, et qui ont eu leur début avec nous à Beaubrun.
C'est très encourageant. Pasteur, il y a certains leaders évangéliques qui, à un certain moment, sous-estimaient l'importance de la théologie et dans les églises. Est-ce que, à ce niveau aussi, tu as constaté une évolution de la mentalité, une évolution de la situation?
Oui, il y a certainement une évolution de la situation pour le meilleur et non pour le pire. Parce que, avec ces nouvelles générations, De jeunes qui sont formés à l'école et qui sont des professionnels, eh bien, les églises deviennent plus exigeantes. C'est que le leadership doit pouvoir répondre à ses besoins. Parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne possède pas.
Tout à fait.
Donc, puisque nous avons au sein de ces églises des gens qui sont formés, eh bien, cela rend nécessaire qu'il y ait aussi des pasteurs formés.
Tout à fait.
Donc, la situation a beaucoup changé et c'est pour le meilleur.
et non pour le pire.
Et non pour le pire.
Amen. Pasteur, nous allons prendre une dernière pause et nous reviendrons avec quelques questions supplémentaires avant de mettre fin à l'émission. Nous allons écouter un deuxième titre de l'album d'Alabanza, dirigé à l'époque par ton fils Karl-Henri Joseph, à qui nous devons aussi notre reconnaissance, puisque notre album Mabdo Merci, qui était sorti en Haïti, était mixé, arrangé par le maestro Karl-Henri Joseph. Avant, à la fin de l'émission, je ferai écouter un titre de cet album à nos auditeurs. Gardez l'écoute, nous vous reviendrons juste après ce chant du groupe Alabanza, signé Karl-Henri Joseph, fils du pasteur Jean Duten Joseph, notre invité à l'émission Pastopod.
La pluie tape tombée. Bonne écoute.
La pluie tape tombée. Si le vent a soufflé, nous tout profiter, prier. T'es en tes palais, palais à Bondier, nous les sentir tout près.
À l'écoute, l'émission Pastopod continue sur votre radio. Nous allons aborder la dernière partie avant de mettre fin à cette nouvelle édition. Et je vous rappelle que notre invité, c'est bien le pasteur haïtien Jean Duten Joseph, ancien professeur au séminaire théologique évangélique d'Haïti. Alors, j'oublie toujours la bonne appellation. Qu'est-ce que tu enseignais dans cette école biblique, pasteur?
Oh, toute une variété de matières, de sujets.
Par exemple.
La recherche, l'introduction à la recherche, et l'homélétique qui est l'art de prêcher.
Oui.
L'administration de l'Église. Mm-hmm. Et les théologies du tiers-monde.
Oui.
Et la philosophie de la religion, et d'autres cours de Bible, et j'assurais le décanat et la direction de l'école. En fait, il faut préciser que j'ai passé 10 ans directeur de l'école évangélique de la Bible, et lorsque nous avons fondé le STEP en 1981, donc Jean je suis devenu alors le doyen du STEP.
Mm-hmm.
Et j'ai servi cette institution jusqu'en 2003. Et c'est en 2004 hein, vraiment.
Que,
oui, oui, en 2004, j'ai pris ma retraite.
Ah ben voilà, j'allais te poser cette question. Je sais que tu es actuellement à la retraite.
Je suis à la retraite, bien sûr.
Comment se passe cette retraite? Ton agenda, tes plannings, est-ce que c'est toujours le même rythme? Prédication, études bibliques, voyage, ou bien maintenant tu diminues un peu le rythme, tu te consacres à une branche bien déterminée?
Eh bien, vous savez que il y a beaucoup de gens qui disent que le mot retraite pour un pasteur, un ouvrier du Seigneur, n'est pas biblique parce qu'ils ne trouvent pas ça dans la Bible. mais je pense que c'est une nécessité administrative,
mm-hmm.
et parfois c'est une nécessité physique aussi.
Oui, oui.
Parce que à mesure que l'on avance en âge, on devient de moins en moins capable,
oui.
d'assumer les responsabilités qu'on pouvait assumer quand on était encore jeune.
Mm-hmm.
Mais cette retraite, ce n'est pas une retraite hein, qui exclut tout engagement dans la prédication, dans l'enseignement et dans l'administration.
Mm-hmm.
Parce qu'actuellement, nous dirigeants, nous sommes titulaires d'une église d'expression française, aux États-Unis d'Amérique.
Mm-hmm.
Alors, nous étions venus en 2004, parce que nous avons quitté Haïti le 29 décembre 2003.
Oui.
Donc, en 2004, quand nous sommes venus aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et c'était pour achever la rédaction d'une thèse doctorale.
Mm-hmm.
Mais comme à cette époque, il y avait un besoin à l'église, dont je viens de citer le nom, parce que le pasteur, il était un diplômé de l'école évangélique de la Bible,
mm-hmm.
Et l'un des l'un des ouvriers de Radio Lumière, parce que c'est lui qui avait, je crois, institué le programme intitulé Table spirituelle.
Mm-hmm.
Je veux parler du feu, le pasteur Tony Joseph.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, il est décédé en 2003.
Mm-hmm.
Et alors, il y avait un besoin, et l'église a fait appel à nous, ma femme et moi, et comme nous devions quand même voyager pour achever cette rédaction de thèse doctorale et la soutenir, eh bien, nous avons essayé de faire plusieurs choses à la fois.
Mm-hmm.
Donc, depuis, le Seigneur nous a aidés efficacement. Nous avons achevé le programme doctoral. Nous avons reçu notre papier,
mm-hmm.
depuis en 2006.
Amen.
Et nous continuons à servir l'Église et nous y travaillons aussi en qualité de mentor parce que nous avons d'autres jeunes, deux jeunes pasteurs,
mm-hmm.
à qui nous avons déjà imposé les mains,
mm-hmm.
et qui militent maintenant et qui fonctionnent. Et il y a une troisième possibilité pour l'Église, parce qu'il y a le jeune fils du pasteur défunt qui travaille avec les jeunes,
mm-hmm.
qui, sous peu,
oui.
recevra lui aussi l'imposition des mains. Donc je suis comme un mentor.
Amen.
Et alors que je travaille encore à l'administration de cette église.
Pasteur, quels sont, à ton avis, les plus grands besoins actuels de nos églises? Je généralise parce que je sais que l'église de Jésus-Christ partout dans le monde est unique. Quel est, à ton avis, le plus grand besoin de cette église?
Ah, c'est une question quelque peu difficile, mais je pense que le plus grand besoin sur le plan humain, le plus grand besoin de nos églises actuellement, c'est un leadership chrétien, un vrai leadership chrétien. Parce que il faut signaler que chez nous, dans nos églises, un pasteur, il a beaucoup à faire. Par exemple, un pasteur peut être appelé à desservir une demi-douzaine d'églises.
Mm-hmm.
C'était comme ça que les choses se faisaient en Haïti.
Mm-hmm.
Le pasteur qui est placé dans un centre en province, même à Port-au-Prince, eh bien, il a 4, 5, 6 églises,
mm-hmm.
Sous sa juridiction. Et souvent, on n'a pas le temps d'être présent,
mm-hmm.
même une fois par mois, on est, il y a certaines, il y y a certaines églises qui ne reçoivent pas la visite du pasteur pendant tout un mois.
Oui, c'est vrai.
Donc, avec ça, c'est la chose devient, le ministère devient vraiment difficile. Mais, par contre, pour développer une église en bonne et due forme, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité. Non seulement que le pasteur doit avoir une bonne formation, il doit être compétent, mais il faut qu'il ait du temps.
Effectivement, pasteur.
Ouais. Donc je pense que là, c'est une faiblesse chez nous, parce que pour la simple raison que les églises ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs ministres, elles souffrent. Elles souffrent, elles ne sont pas bien nourries. Et ceci, c'est une question de cause à effet.
Pasteur, actuellement, il y a pas mal de compagnons de ministère, je dirais, des pasteurs comme toi qui écoutent nos émissions, et spécialement la rubrique Pastopod qui leur est consacrée. Et est-ce que tu as un petit mot venant du tréfonds de ton cœur pour ces pasteurs comme toi qui écoutent l'émission Pastopod?
Oui, alors, je les encouragerais à prier pour cette émission et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'encourager par tous les moyens possibles. Et je crois que nous devons encourager ce genre de ministère parce que c'est un ministère qui peut porter l'évangile là où nous autres, nous ne pouvons pas nous trouver physiquement.
Amen.
Et elle peut faire un travail beaucoup plus facile, plus rapidement que ce que nous aurions pu faire parce que nous sommes limités par le temps et l'espace. Tandis qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut aller loin, voyez, on peut aller loin et faire un travail efficace.
Effectivement.
Et qui pourra, n'est-ce pas, avoir un rayonnement beaucoup plus large que ce que nous aurions pu réaliser dans un secteur donné.
Donc, à ton avis, les pasteurs qui écoutent cette émission devraient, dans la mesure du possible, supporter le ministère de la Radio Ebenezer International. C'est ce que tu veux dire?
Bien sûr, c'est très souhaitable.
Ah, c'est pour la première fois que j'entends ça, et franchement, c'est très encourageant, pasteur. Dans quelques instants, nous allons terminer, mais une autre parenthèse, c'est pour parler un peu brièvement de ton fils Carly, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a marqué la musique haïtienne par son savoir-faire, par sa consécration. Qu'est-ce qu'il fait actuellement aux États-Unis?
Alors, Carly, c'est un jeune homme qui est doué pour ce qui concerne la musique. Et quand on l'a envoyé à l'université, à Moody Bible Institute, c'était justement dans le but de lui permettre d'étudier la musique, parce qu'il y avait à l'époque un programme de musique très bien structuré à Mondi. Cependant, quand il y est arrivé, et au lieu de considérer la musique en tant que domaine de formation, il a plutôt opté pour la communication. Et après ses études à Mondi, il est allé en Indiana et il a continué dans le même domaine. Cependant, quand il est sorti de l'université, tout de suite, il commençait à composer et à jouer. C'est keyboard. Et j'ai dit que c'est un monsieur doué parce que la chose vient comme au petit bonheur pour lui. Oui, il compose facilement, il joue tous ses instruments, là, orgue, piano, keyboard. Et avec une aisance admirable, étonnante parfois pour nous, parce que moi j'ai essayé à plusieurs reprises de jouer certains instruments de musique, mais je n'ai jamais pu parce que ce n'est pas mon don.
Amen.
Mais lui, c'est inné chez lui.
Amen.
Et il est venu avec un style de musique que les chrétiens conservateurs comme moi peuvent avoir des difficultés à apprécier, parce que c'est la musique chrétienne contemporaine. Mais c'est là qu'il a développé ses talents. Et il est devenu, en fait, un champion dans ce domaine.
Amen.
Pour l'Église haïtienne en général et pour d'autres églises en particulier qui entendent sa musique. Et actuellement, et avec ses enfants, la plupart de ses enfants, ils chantent aussi en anglais. Donc actuellement, il est en Floride, mais il continue son ministère.
Amen.
Continue son ministère et il a un ministère et à la télévision aussi. Donc c'est un élargissement, n'est-ce pas, de chant pour lui et c'est un rayonnement pour son ministère. Et il faut dire que tous les membres ne sont pas avec lui parce qu'il y en a qui ont déjà abandonné.
Oui.
Et d'autres vivent encore en Haïti. Mais il y en a deux qui voyagent souvent quand il a des concerts aux États-Unis. Il a des concerts à travers plusieurs États, surtout là où se trouve une agglomération haïtienne.
Amen. Mais pasteur, je ne te demande même pas de lui transmettre nos salutations parce que je sais qu'il aura la possibilité d'écouter l'émission. J'en profite pour dire, Maïso Carly, que le Seigneur te bénisse et puis continue à militer avec tes talents, avec tes dons pour transmettre le message de l'Évangile à cette génération qui a tellement soif d'entendre le message que tu apportes dans tes chansons. Que Dieu te bénisse, Carly, ainsi que toute ta famille. Pasteur, un dernier mot pour terminer. Je pense qu'en parlant là, il y a un verset biblique qui t'est venu à l'esprit, si je ne doute pas. Quel est ce verset? Et puis, je t'accorde peut-être 20 secondes pour un petit commentaire de ce verset qui t'est venu à l'esprit.
Oui, le verset qui me vient à l'esprit et que j'ai adopté comme ma philosophie dans le ministère, c'est celui que nous trouvons au 4e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens et le verset 7e, qui dit « Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu ?» Alors là, l'apôtre Paul a adressé cette exhortation aux Corinthiens pour leur dire, en très peu de mots, de ne pas se glorifier de leur talent, de ne pas se glorifier de leur... l'avantage de leur connaissance, parce que tout ce que nous possédons vient de Dieu.
Amen.
Et puisqu'il en est ainsi, toute la gloire doit aller à Dieu.
Amen.
Donc à Dieu, toute la gloire, parce que tout vient de lui.
Amen.
Donc j'espère que tous nos collègues dans le ministère vont comprendre que si Dieu les appelle à son service, eh bien, c'est pour sa gloire, c'est pas pour leur gloire, mais c'est la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu. Et puis, pasteur, ton dernier mot pour conclure.
Eh bien, ça a été un plaisir de répondre à ces questions qui m'intéressent fort bien, et j'espère que ma contribution en ce sens a été en bénédiction à cette émission et à ceux qui vont l'écouter.
C'est sûr. Pasteur, moi, de mon côté, je te remercie vraiment pour ce sacrifice que tu as consenti pour la réalisation de cette émission. Et je ne sais pas si le Seigneur nous donnera de nous rencontrer un jour pour se donner la main. Et si ça n'arrive pas sur cette terre, je suis certain que nous travaillons pour qu'un jour, dans la gloire de Dieu, nous nous rencontrons afin de passer ensemble l'éternité dans la présence de Dieu, dans un endroit où il n'y aura pas de séparation, pas de deuil, pas de tristesse. Ce sera la félicité pour l'éternité.
Merci beaucoup. Et ça, c'est l'espérance de l'Église de Jésus-Christ.
Amen.
C'est notre espérance à nous tous qui croyons au même Sauveur.
Pasteur, que le Seigneur te bénisse.
Et merci. Et à toi, je dis félicitations et que le Seigneur bénisse ton ministère à sa gloire.
Merci bien, pasteur. Allez, à bientôt. Au revoir.
Merci.
Écoutons ce titre, M'abdi ou merci. Parole et musique de votre serviteur, arrangement Karl-Henri Joseph. Enregistré au studio Alabanza Production d'Haïti. Bonne écoute.
Ou habiter dans le ciel, côté qui est en pile. La maison sera faite à ta louange tout le temps. Quand on descend bien bas côté saillot qui affligé, pour bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil, côté où chita dans le ciel là. Va recevoir louange dans mon belle musique. Pourtant, voyager au sous nous, capé vivre sous la terre. Pour répondre, prier nous, les nous en bataille. Merci, merci Seigneur, pour l'amour. Merci Seigneur pour la vie qu'on a en nous. Dis-nous merci Seigneur pour l'amour puissant qu'on gagne et au penser à nous. Dis-nous merci Seigneur. Dans mi temps ça a créé. Même non pas rien. Devant la lune, soleil, les étoiles, nous t'en pourrions t'y paille. Pourtant, on mettait souvent dans nous, pas nous la vie. Avec nous, voix pour nous dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour. Tout bagaille. Parole nan bouche ou kon fè toute la tête tremblée. Pourtant, ou intéressé à nous qui chargé à faiblesse. Ou met force ou nan nou len presque fin tombé. N'a dit ou merci Seigneur pour l'amour. Seigneur, pour l'amour puissant, sous gagné, et où penser à nous, n'a petit ou merci, Seigneur.
Oh, Jéhovah, tout ça l'homme est pour penser à elle comme ça. Merci, Seigneur.
Seigneur, pour la victoire, pour moi. M'a dit ou merci, Seigneur, pour l'amour, puissance, ou gagné, et ou penser à moi, et ou penser à toi, et ou penser à moi. M'a dit ou merci, Seigneur.
C'est sur cette note que nous mettons fin à l'émission Pastopode, un programme qui était consacré au pasteur Jean Dutaine Joseph. Si l'émission vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des conseils, vous pouvez nous envoyer un pot de mail à l'adresse signalée sur notre page d'accueil francradio@automatique.com. francradio@automatique.com. Avant de partir, j'aimerais remercier une nouvelle fois le pasteur Jean Dutaine Joseph pour sa participation à l'émission. Un grand merci au pasteur Versayo, le frère Delma, qui nous ont aidés à établir le contact avec le pasteur Jean Dutaine au cours de son séjour en France. Salutations à tous nos frères et sœurs de la communauté haïtienne en France, dans quelle que soit l'église où ils se réunissent pour adorer le Seigneur. Nos remerciements vont vers l'artiste Nicolas Desmarais, la société Sephora Musique de la Vie, sans oublier l'artiste, le musicien compositeur Carl-Henri Joseph, musique utilisée avec l'aimable autorisation du pasteur Jean Dutaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vous tous, fidèles amis de la Radio Ebenezer International, qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre fidèle écoute. Et prions pour que le Seigneur continue à répandre sur vous ses plus riches bénédictions, tant spirituelles que matérielles. C'était pour vous servir. Au micro et à la régie, votre ami en Jésus-Christ, Franck Doristil, qui vous dit merci et à bientôt. Au revoir.
Vous venez d'écouter Pasto Ford sur Ebenezer International.